Vous écoutez Pastopod sur la RCEI. Bonjour, chers amis à l'écoute, et merci de faire vôtre cette radio dont l'objectif principal est de vous pourvoir à de bonnes nourritures spirituelles. C'est votre frère en Jésus-Christ, votre ami podcasteur Franck Doristil qui est de retour avec ce nouveau numéro de Pastopod. Amis à l'écoute, depuis la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte, le Seigneur y a toujours placé des hommes ordinaires, parfois d'origine bien modeste, et les a équipés afin d'accomplir des choses extraordinaires. En dépit de tout ce qu'on peut penser de cette Église, aujourd'hui encore, ses serviteurs de Dieu existent. Certains travaillent dans le plus grand anonymat, d'autres sont d'une renommée internationale. Néanmoins, ils ont tous le même et seul objectif, à savoir orienter les âmes perdues vers la glorieuse lumière de l'Évangile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'heureux plaisir de vous présenter dans cette édition de Pastopod le pasteur haïtien Jean-Valérie Vitalerne. Lors de son récent passage en France, nous l'avons rencontré pour un entretien au cours duquel il nous a donné des nouvelles très encourageantes au sujet de l'Église de Jésus-Christ en Haïti. Comme il est de notre habitude, de très belles sélections musicales ont été choisies pour votre plus grand plaisir. Je vous souhaite d'ores et déjà une agréable écoute. Pastopod. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Journal, great is my joy today to be the humble instrument used by the Creator to help you to discover some of His children working to spread the gospel. I thank you all for choosing our channel, Radio Ebenezer International, and pray that the Lord may use it to bless your soul. And be sure to tell all your friends and relatives to join us at www.radioebenezerinternational.com, www.radioebenezerinternational.com. You can also visit our podcast site to download any episode that you want. The site is www.frankradio.podomatic.com, www.frankradio.podomatic.com. In the next few minutes, I will welcome a young Haitian pastor. His name is Jean-Valéry Vitalerne. I've met him during a short journey in France where he has shared with us some good and positive news about the church in Haiti. Zami kap kote, mwen di ou bonjour et merci parce que choisi Radio Ebenezer International. Se zami ou Franck Doristil kap pale avec ou. Et nous content pour nous présenter aujourd'hui un autre numéro émission Pastopod. Côté nous pral rencontrer avec un jeune pasteur haïtien qui rele Jean-Valéry Vitalerne kap travaille dans mission Église de Dieu la prophétie qui basé dans bicentenaire en Haïti. Pour commencer, nous proposer au morceau musique Maggie Blanchassa. Je te suivrai là où tu iras. Bonne écoute à toutes et à tous.
Je connais sa voix qui m'appelle. Il comblera puis mon cœur. Sa grâce bannit mes peurs. Je lui donne de tout cœur ma joie, mes rêves, de mon ardeur.
Et je te suivrai là où
je te suivrai.
Je ferai de toi
là où tu voudras, là où tu iras. Chant qui nous rappelle la mission de chaque serviteur de Dieu, suivre Jésus qui les a appelés à son service. C'est maintenant le moment d'accueillir notre invité, à qui je dis bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio chrétienne Ebenezer International.
Je suis Jean-Valéry Vitalerne, je suis né à Port-au-Prince. Mm-hmm. Je suis fils de pasteur et petit-fils de pasteur, membre de l'Église des Dieux de la Prophétie, responsable du Défi Miché, coordinateur du Défi Miché en Haïti, et je suis sûr qu'on aura la possibilité de parler du Défi Miché. Je suis traducteur professionnel, prédicateur, également communicateur. J'anime une émission à la radio. Voilà, père de famille, j'ai deux enfants, une fille de 5 ans et un fils de 4 mois.
Fils de pasteur, petit-fils de pasteur. Bon, pour moi qui ai grandi en Haïti, je connais un peu l'histoire de la mission ou l'église, la prophétie du bicentenaire, c'est ça?
Oui, c'est bien cela.
Fils de pasteur, petit-fils du pasteur, nos amis haïtiens qui sont à l'écoute, ils savent très bien de quoi vous parlez, mais pour ceux qui ne le savent pas, ce grand-père pasteur et ce père pasteur, c'était qui exactement?
Mon grand-père était le pasteur, l'évêque Jacques Vitalerne. Mm-hmm. Qui a fondé l'Église de Dieu, ensuite a fondé l'Église de Dieu de la Prophétie. Notre famille a vécu dans le sud du pays depuis avant l'indépendance. Elle était une famille catholique et mon grand-père était la première personne à s'être converti au Christ et il a commencé l'œuvre de l'Église de Dieu de la Prophétie. Il est l'un des pionniers de l'église pentecôtiste en Haïti. Il a milité à l'Église de Dieu de la Prophétie, je pense, pendant plus de 30 ans. Mm-hmm. Ensuite, à sa mort en 1975, mon père a pris le maillet, je pourrais dire. Mm-hmm. Et le Seigneur a utilisé mon père, Jean-Élie Vitalerne, pour qu'un véritable réveil puisse s'accomplir à travers Haïti. L'église principale, l'église de Dieu de la prophétie du bicentenaire, avait environ 600 membres lorsque mon père est mort, et lorsque mon grand-père est mort en 1975. Et à la mort de mon père en 2001, l'église comptait plus de 3000 membres. Et à travers Haïti, l'église en général, la mission avait 30 000 membres et peut-être, je pense, 40 ou 50 000 adhérents.
Oui. Merci bien pour cette partie historique qui est très intéressante, puisque je connais plus ou moins l'histoire de l'Église de Dieu en Haïti également. Actuellement, quand on parle d'Église de Dieu ou Église pentecôtiste, il y a l'Église de Dieu de la rue du Centre qui est très connue,
oui.
C'est ça? Il y a l'Église la prophétie du bicentenaire. Il y a quoi encore dans cette branche du protestantisme en Haïti?
Ah oui, il faut dire que en réalité, si je peux parler premièrement du pentecôtisme, le pentecôtisme a été introduit en Haïti à travers l'Église de Dieu en Christ.
Mm-hmm.
Et mon grand-père avait laissé l'Église catholique pour se faire diacre anglican. Ensuite, il a été l'un des premiers pasteurs de l'Église de Dieu en Christ et a commencé l'Église de Dieu. Surtout à la rue du Centre,
mm-hmm.
et l'Église de Dieu de la prophétie. Ensuite, de ces églises, beaucoup d'autres églises pentecôtistes, Assemblée de Dieu, la foi apostolique, et bien sûr, il n'y a pas uniquement les églises pentecôtistes en Haïti, il y a les méthodistes. Lorsqu'on parle de baptistes, il y a beaucoup d'assemblées baptistes, MEBSH, UEBH, Église baptiste du Nord. Dans la souche protestante, il y a les adventistes. Donc, pour le moment, en Haïti, certaines personnes disent que presque la moitié de la population haïtienne se réclame comme chrétien protestant. Il n'y a pas vraiment de recherche, je pourrais dire, pointue, mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens protestants. Et comme j'aime dire, là où on ne trouve pas un bureau de l'État, on trouvera quand même une église. Et les pasteurs sont à la fois responsables de développement, pères de famille pour plus d'un, aumônier. Donc l'église chrétienne en Haïti, surtout l'église protestante, est... véritablement un outil que Dieu utilise puissamment.
Pour conclure cette page, quelle est, à votre avis, la place de la foi dans la culture haïtienne, la foi en Dieu?
On ne peut pas parler de culture haïtienne et enlever la foi. Qu'on soit vaudouisant, protestant, catholique et même athée, quelqu'un a dit: un haïtien athée, ça n'existe pas. Parce que dès qu'on parle d'haïtien, on parle de foi. Et je pense que le 12 janvier 2010 a montré la force de la foi dans la culture haïtienne. Donc, celui qui prend naissance dans une famille haïtienne rencontre rapidement ce Dieu. Le Dieu de la Bible en général et... on parle toujours de Dieu, on parle toujours du Christ. Donc la foi est un élément vital dans la culture haïtienne.
Donc il semble qu'il est presque impossible de rencontrer un haïtien qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a jamais passé devant une église pour entendre un message quelconque, même si c'est involontairement.
Laissez-moi vous dire, même si quelqu'un n'entre jamais dans une église, les tap-tap dans les rues vont prêcher quand même. Parce que sur les tap-tap, on voit le nom de Dieu est sur la majeure partie des véhicules publics.
C'est quoi les tap-tap? Ceux qui ne le savent pas.
comment décrire cela? Les tap-tap, ce sont de petits véhicules, des pick-up couvert d'une structure en bois ou en métal.
On peut dire aussi que c'est de vraies œuvres d'art, pourquoi pas.
Ce sont effectivement de vraies œuvres d'art sur lesquelles sont marqués différents messages, mais surtout des messages concernant la foi, concernant Dieu. Dieu si bon, Dieu est amour. Et lorsque vous interrogez le propriétaire du véhicule ou le conducteur et vous lui parlez de ses pratiques religieuses, s'il va à l'église, et il peut vous dire non, jamais, mais je crois en Dieu. Donc il faut dire que la foi en Dieu est ancrée dans la culture haïtienne, et que cette personne soit un intellectuel pointu ou quelqu'un qui ne sache ni lire ni écrire, au moindre danger, la première personne qu'on appelle, c'est Jésus-Christ ou Dieu.
Il y a des gens qui ont vite tendance à dire que c'est à cause de la misère qu'on trouve tous ces croyants en Haïti et dans d'autres pays comme l'Afrique, par exemple, sur le continent africain. Est-ce qu'à votre avis, cette déclaration a un bon fondement?
Oui et non. J'ai des amis, hommes d'affaires puissants, et je vous dis puissants, très puissants en Haïti, qui, pour certains, sont beaucoup plus dévoués que des gens qui n'ont presque rien à manger. Et je pense déjà à certains, et je m'abstiens de citer le nom de ces hommes d'affaires, de ces hommes ou femmes d'affaires. Donc, c'est non. Oui, d'un certain côté, parce que, vous savez, le message de l'Évangile est un message d'espoir. Et certaines personnes viennent à l'Église, parfois, et souvent pour prier ce Dieu qui peut faire des miracles, prier ce Dieu qui peut changer la situation économique et sociale. Mais en entrant dans l'église, peut-être pour ces raisons, ces personnes ont une rencontre avec le Christ qui transforme leur vie. Donc que cette personne aille à l'église pour un miracle, pour une guérison, pour un travail, pour aller à l'université, pour avoir un visa, comme le dit l'apôtre Paul, l'évangile n'est pas moins annoncé, et cette personne entend, écoute la parole de l'évangile. Donc ce qui est important, c'est que tout prédicateur sache cette tendance et redresse la barre et prêche l'évangile sans honte, avec toute sa puissance et dans toute sa pureté.
La rencontre de nos invités avec le Seigneur, il est vrai que vous venez d'une famille pastorale, dès votre naissance, même dès votre conception, l'évangile, vous commencez à écouter l'évangile dans le sein de votre mère. Mais quand même, votre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, vous en avez des souvenirs?
Oui. Premièrement, il faut dire que j'ai hérité de beaucoup de choses de mon père et de ma mère, sauf de l'évangile. Parce qu'on ne peut pas hériter de la vie éternelle.
Amen.
J'ai hérité de la voix de mon père, de son style, de sa démarche. J'ai hérité une partie du caractère de ma mère, sauf de la vie éternelle. Donc j'ai dû un jour faire une rencontre personnelle avec le Christ. J'étais très très jeune, j'avais 8 ans, et j'ai rencontré Jésus-Christ. Et après... j'ai un peu faibli dans ma foi, mais à l'âge de 15 ans, j'ai tout de suite, je peux dire, réaffirmé ma foi dans le Seigneur. Et depuis ce temps, mais aujourd'hui j'ai 35 ans, donc j'ai une bonne vingtaine d'années depuis que je marche avec le Seigneur. Et si j'avais à le refaire, je le ferais encore.
Amen. Votre assemblée, pasteur Jean-Valéry Vitalerne, se situe en plein cœur de la ville de Port-au-Prince.
Effectivement.
Et ce passe de présentation, vous venez de nous en parler brièvement, mais actuellement, comment est cette église?
C'est une église qui explose. Parce que, avant le tremblement de terre, l'église avait environ 3000 membres. Et après le tremblement de terre, sans exagérer, je pense qu'elle avoisine 4000 jusqu'à 4500 membres adhérents, inclus les enfants. Et donc il y a 2 cultes le matin, remplis, complètement remplis. Il y a un mois de cela, j'ai prêché aux 2 cultes. parce que en Haïti, il y a tellement de personnes dans ces grandes églises que un pasteur peut prêcher une fois par mois, et il y a beaucoup de prédicateurs. Mm-hmm. Et après le tremblement de terre, l'église est remplie de gens qui cherchent de l'espoir, qui cherchent Jésus-Christ, qui cherchent à remplir ce vide spirituel et en eux. Mais également, donc ça c'est l'aspect numérique, mais également l'église met beaucoup d'accent sur l'action vers les jeunes. C'est une église très très jeune. La majeure partie des gens, sans exagérer, 80% des gens de l'église sont jeunes. Et c'est une église dynamique, mais également c'est une église qui se transforme. Parce que la génération de mon père a aujourd'hui entre 60 et 65 ans. Mm-hmm. Donc une nouvelle génération émerge et qui réfléchit sur comment dynamiser l'Église aujourd'hui autour des grandes pensées du 21e siècle pour être pertinent et pour toucher davantage de gens. Il faut dire qu'également que l'Église se situe dans un quartier assez pauvre, ce qui est un défi, mais également une opportunité. Mmh. Un défi parce que on vit avec la pauvreté tous les jours. On pourrait être tenté de toujours parler des questions de pauvreté. Et donc, c'est un véritable défi, violence, problèmes économiques, problèmes sociaux, mais également grande opportunité pour que l'Église prêche non seulement l'Évangile, mais également soit un agent de transformation pour que la voix du Christ, mais également les mains du Christ touchent les gens là où ils sont.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils suivent l'émission Pastopod, une édition spéciale consacrée au ministère de notre compatriote, le pasteur Jean-Valéry Vitalerne. Pasteur Vitalerne, combien d'églises comprend la mission, la prophétie? Y a-t-il une tête dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis ou la France?
En Haïti maintenant, l'église, nous avons environ 295 à 300 églises à travers Haïti, 50 000 membres. Et l'église est originaire des États-Unis, effectivement, dans le Tennessee. Et si ma mémoire est bonne, elle a des tentacules dans plus que 100 pays, notamment en France. La communauté de l'Église de Dieu de la prophétie n'est pas grande. En France, elle est beaucoup plus grande en Angleterre. Et avec environ, l'Église comporte environ 1 million de membres à travers le monde aujourd'hui.
Une petite parenthèse, il y a une autre branche de l'Église pentecôtiste en Haïti, c'est la mission Ebenezer. Ça vous dit quelque chose? Qu'en est-il de cette œuvre actuellement?
Oui, la mission Ebenezer, si ma mémoire est bonne, sort de l'Église de Dieu de la prophétie. Mais il y a vraiment longtemps, je ne pense pas que j'étais encore né. Je n'ai vraiment pas de nouvelles de cette église.
C'est une mission, en fait,
oui, oui.
Avec environ 304.
Oui, 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 oui. Mon père m'a parlé de cette église. Le pasteur était son ami.
Mais ça, ouais.
Rémus Arbouet, effectivement. Et j'ai connu sa fille, mais malheureusement, j'ai perdu des relations avec eux pendant que j'étais adolescent. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, en ce temps-là, ses pasteurs étaient plutôt en contact avec mon père. Mm-hmm. Ce n'est qu'après la mort de mon père que j'ai pris des relations personnelles avec la communauté protestante. Mm-hmm. Donc, ceux qui sont vivants maintenant, je connais la majeure partie d'entre les leaders, qu'ils soient baptistes, adventistes ou méthodistes. Mm-hmm. Mais malheureusement, je n'ai pas a eu des contacts avec l'église de Dieu Ebenezer.
Eh bien, je vous confie cette mission. Quand vous rentrerez en Haïti, essayez de vous en informer. Il y avait une à l'avenue Christophe, il y en avait à Rue Saint-Martin, à Saint-Phil, etc. Donc, que le Seigneur continue de bénir cette œuvre pour la propagation de l'Évangile. Hein.
Oui, la fille du pasteur Arbouet était venue à notre église, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, avec son mari, et ils avaient animé un concert qui a vraiment touché les cœurs des jeunes à cette époque. Et ce couple a un témoignage puissant, et jusqu'à présent, je garde de très très bons souvenirs.
Et pour conclure, je dois vous dire qu'à Petit-Gouave, c'était le quartier général de cette mission.
Ah.
Et c'est là que se situait, à mon avis, la plus grande église protestante en Haïti.
Wow.
À l'époque.
D'accord, hein? D'accord, oui.
Ça vaut la peine de fouiller pour voir
Définitivement.
Voilà.
Oui,
définitivement. Qu'est-ce qui s'est passé de cette mission.
Pastopod sur la RCE.
Je suis ce que je suis. De par la grâce de Dieu.
L'aime dormi, si me lever, si ma vie, l'aime sorti, si me rentrer, si moi là, sans vous parler.
Vous écoutez Astopod sur la radio chrétienne Ebenezer International.
L'émission Astopod continue sur la radio qui prend à cœur par votre édification spirituelle. Et je vous rappelle que c'est votre ami podcasteur Franck de Wistil qui vous parle, accompagné de notre invité spécial, le pasteur Jean-Valéry Vitaleon, qui nous vient d'Haïti. Les deux passages en France. Pasteur Jean-Valéry, pour beaucoup de nostalgiques, c'était tout à fait normal à ce que vous remplaciez votre père dans ce ministère. Comment cela s'était passé après la mort de votre père? Il n'y avait pas de demande dans ce sens?
C'est une excellente question. Il faut vous dire que dès mon jeune âge, et je me le rappelle très bien, dès l'âge de 8 ans, beaucoup se sont dit que je serais le prochain évêque de l'Église. Comme un ami de mon père a dit, je pense que l'Église m'a appelé avant le Seigneur au ministère. Mais à la mort de mon père en 2001, le jour même de ses funérailles, on m'a demandé, c'est-à-dire le quartier général aux États-Unis m'a demandé de rester en Haïti parce que j'étais rentré, j'étudiais aux États-Unis et j'étais rentré pour les funérailles de mon père. Et plusieurs personnes voulaient que je sois effectivement le remplaçant de mon père. À cette époque, je pense que j'avais 25 ans. Et j'ai refusé. J'ai dit aux responsables que non, je veux finir mes études. Et deux ou trois jours après, je suis parti pour les États-Unis. Donc, une leçon que mon père et ma mère m'ont appris, c'est que le ministère n'est pas comme une entreprise. Le ministère n'est pas une dynastie. On doit être appelé au ministère. Et non seulement être appelé au ministère, mais il faut savoir également là où Dieu veut que l'on travaille. Donc, je dois vous dire que je ne l'ai jamais regretté. Et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus utile à mon église dans ce que je fais là maintenant que si j'étais évêque. Et je ne le regrette pas jusqu'à présent. Parce que, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus de maturité que lorsque j'avais 25 ans. Et j'acquiers beaucoup de choses, je comprends beaucoup de choses et je suis beaucoup plus utile, comme je viens de dire. Donc, jusqu'à présent, je dois vous dire que certaines personnes ont toujours cette nostalgie. Mais moi, je veux être comme Élie qui essaie de suivre ce que Dieu lui dit. Je me rappelle souvent ce passage lorsqu'Élie fuit Jézabel et le Seigneur lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai toujours peur de cette question du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux être là où Dieu veut que je sois. Et pour l'instant, je suis convaincu que je suis là où Dieu veut que je sois. Donc, je prêche à mon église, bon, autant que possible, parce qu'à cause de mon travail, je prêche dans beaucoup d'églises et je voyage beaucoup. Je suis attaché à cette église, je reste membre de cette église. J'ai une passion profonde pour cette église, mais je supporte le leader et je supporte les leaders qui sont là. Et je travaille autant que je peux et autant qu'ils veulent que je sois utile à leur côté.
Merci pour cette réponse marquée de tant de sagesse. Vous êtes de passage en France actuellement. Quel est le but de votre tournée, si ce n'est pas trop indiscret?
Oh non, pas du tout. Je suis en France pour participer. Bon, je viens de participer à une rencontre à Grasse, tout près de Cannes, à l'initiative du Défi Michelet de France, qui a organisé des activités autour de la rencontre du G20, c'est-à-dire la rencontre des 20 pays les plus industrialisés. À Cannes. L'idée, c'est que l'Église française, c'est pour que l'Église française, d'une seule voix, parle des questions de pauvreté, mais surtout de la question de la corruption. Car, comme vous le savez, l'un des points qui doit être discuté à Cannes, c'est la pauvreté dans le monde, mais surtout la corruption comme, je pourrais dire, cancer qui alimente la question de la pauvreté. Donc, le défi Michelet, en accord avec la Fédération protestante de France, le Concile des églises évangéliques en France également, je ne me rappelle pas du sigle, c'est le CNEF, se sont réunis ensemble pour, avec une panoplie d'autres églises, se sont réunis à tout près de Cannes pour lancer un message. C'est-à-dire que l'Église a quelque chose à dire par rapport à la pauvreté dans le monde. Mm-hmm. Et l'Église a un message puissant qu'elle tire des Saintes Écritures ou le Dieu de la Bible, à la fois dans le livre des Psaumes, à la fois dans le livre des Proverbes, et surtout par la bouche du prophète Amos et du prophète Michée, nous dit que Dieu a horreur de la balance fausse, que Dieu a en horreur la corruption, et que Dieu punit à la fois son peuple, mais également les autres peuples qui pratiquent l'injustice et qui pratiquent la corruption. Donc, le défi Michée de France a voulu lancer un message fort à la fois à la communauté chrétienne, mais également à la communauté du monde pour dire que l'Église de Jésus-Christ prêche un message intégral, c'est-à-dire un message qui touche les esprits, les cœurs, mais également un message qui touche les problèmes actuels, les problèmes sociaux, les problèmes de pauvreté et les problèmes de corruption. Donc, j'ai été invité comme prédicateur, comme conférencier, pour parler de, pour prêcher et partager nos expériences en Haïti et partager la vision du défi Michée d'Haïti et du défi Michée mondial autour de la nécessité pour que l'Église élève la voix en faveur des pauvres, mais également contre la corruption dans le monde.
Je crois que cette participation, cette invitation vous a permis de représenter Haïti, parler aussi de ce que vit le peuple haïtien. N'était-ce pas une sorte d'honneur pour notre peuple aussi de participer à cette grande conférence?
Définitivement. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'étais un peu perplexe parce que le défi Michée à 40 campagnes et les responsables de France ont choisi la campagne haïtienne. C'était véritablement un honneur, mais surtout une possibilité pour un représentant du pays du Sud de parler de ce qui se passe en Haïti, qui est en un certain sens une petite représentation de ce qui se passe dans certains pays du Sud, mais également pour attirer l'attention sur non seulement ce qui se passe dans le Sud, mais également dans le Nord. Donc c'était un privilège, une opportunité, mais surtout une grande responsabilité.
C'est vrai, nous en sommes conscients. Et on n'oubliera jamais, pasteur Jean-Valéry Vitalerne, le grand séisme qui a frappé Haïti, notre terre natale, il n'y a pas trop longtemps de cela. Comment l'Église d'Haïti, et plus particulièrement la mission, la prophétie, a vécu ce drame terrible?
L'Église était dans les mois, la tristesse. L'Église également était choquée. Mais heureusement que la foi de l'Église fut très forte. Parce que avant même que le gouvernement réponde, avant même que les agences humanitaires répondent, l'Église était la première. Et lorsque je parle d'Église, je parle à la fois de l'Église protestante et l'Église catholique. Cette Église était la principale. Le principal instrument à répondre de manière automatique, hein. Dans quelques minutes, les portes des églises étaient ouvertes. Bon, c'est le bâtiment qui était resté debout à Port-au-Prince pour recevoir les gens, pour abriter les gens, pour entamer des cultes et conseiller. Donc, au milieu même de la souffrance, les leaders évangéliques ont tout de suite pris leurs responsabilités à bras le corps pour à la fois offrir le message de l'Évangile, mais également beaucoup de soutien, et l'Église a exprimé une grande solidarité. Et je dois vous dire également que le séisme a permis de mettre l'emphase sur, comme je l'ai dit au tout début, sur la puissance de la foi et sur l'implication, ou plutôt sur comment le chrétien haïtien est au moins religieux. Et l'une des choses pour lesquelles l'Église n'était pas prête, et ça, j'en suis conscient, c'est cette affluence de gens qui aujourd'hui remplissent les temples, jusqu'à présent, même après un an. Donc, certains leaders étaient débordés, certains étaient fatigués, mais le Seigneur a soutenu beaucoup plus d'un. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'Église est beaucoup plus forte, mais l'impact de l'Église sur la société est visible. Cet impact est palpable.
Et votre bâtiment n'était-il épargné? Et si oui, où en êtes-vous avec la reconstruction?
Le bâtiment a été épargné. On me dit que lors de la construction, bon, je n'étais pas encore né, j'étais dans les reins de mon père. On me dit que l'ingénieur d'alors a fait une construction parasismique. Je ne sais pas pourquoi, c'était dans les années 60 et le bâtiment a résisté. De petites fissures très légères, mais maintenant les gens se sont réunis. Mais il faut vous dire que de la mission, au moins dans le district de Port-au-Prince, c'est la seule église qui a été épargnée et toutes les autres ont été détruites. Environ une quinzaine d'églises.
Et avez-vous pu visiter d'autres assemblées amies, soit pour les encourager ou pour leur parler de la situation de l'église en Haïti ou de la mission dont vous faites partie?
Oh oui, c'est ce que je fais depuis au moins 3 ans. Mais avec le séisme, je n'assiste presque plus au culte de mon église. Parce que je prêche presque tous les dimanches à une église différente et qui réclame la présence du responsable du défi Miché pour parler soit de la famille, mais surtout sur la responsabilité de l'église et de la deuxième et de la prochaine génération. Ce que je fais avec les cœurs joie, et à titre d'exemple, les 2 derniers mois qui se sont écoulés, j'ai prêché au moins 1 ou 2 fois tous les dimanches, sans compter les prédications au cours de la semaine ou les interviews à la radio. Donc c'est un privilège et une grande responsabilité. Et ceci nous permet de voir, premièrement, la fraternité maintenant, ce qui n'était pas la réalité il y a peut-être une cinquantaine d'années. La grande fraternité qui existe entre les dénominations de toute tendance, mais également l'engouement à rechercher un souffle nouveau dans l'Église haïtienne aujourd'hui. Parce que le tremblement de terre a suscité beaucoup de questionnements, mais également a, je pourrais dire, renforcé l'engouement de beaucoup de leaders à faire un impact, voilà, à faire un impact beaucoup plus profond dans la société haïtienne. Je dois vous dire que jusqu'à présent, beaucoup de gens réfléchissent, prient, discutent comment l'Église haïtienne peut réellement enclencher une véritable révolution. Pas une révolution armée, mais une véritable révolution dans les pensées, dans la mentalité et dans le comportement des gens.
On ne dira jamais assez que ce pays aura besoin de l'aide pendant longtemps, une très longue période. Avez-vous eu le courage, Pasteur Vitalerne, ce courage qu'il fallait pour réitérer ce message qui ne sonnera pas bien dans toutes les oreilles par ces temps de crise économique?
C'est une excellente question. Il y a un auteur américain très connu et pasteur également qui s'appelle Bill Hybels qui dit toujours « N'ayez pas honte de demander ». Bon, jusqu'à une certaine limite. Mais vous savez, la crise économique mondiale est réelle. Mais lorsque, par exemple, des gens disent « Est-ce qu'il y a un besoin réel ?» soit en nourriture ou en argent, on ne peut nier que ce besoin est présent. Mais je dis toujours qu'en Haïti, l'argent n'est pas un problème. Bon, vos auditeurs peuvent dire « Ah, oh, c'est la première fois que nous entendons cela, qu'en Haïti, l'argent n'est pas un problème. » Non, je ne pense pas que l'argent soit un problème. Je pense plutôt que la vision est un problème parfois, la planification est un problème, la bonne gestion est un problème. C'est pour cette raison que le défi Miché encourage à la fois les églises et le gouvernement à avoir une grande vision et à bien planifier. Donc autant que possible, je suis franc et ouvert, d'autant que je ne demande pas l'argent pour moi. Donc je suis plus, je pourrais dire, plus calme pour dire les frères et sœurs ont besoin d'argent. Mais avant de donner l'argent, il faut se rassurer qu'il y a des mécanismes. Et c'est ce grand problème qui existe dans l'humanitaire, où les cœurs sont touchés et l'argent coule à flot. Mais il y a un manque de celui qui reçoit ou qui donne l'argent ne se met pas ensemble pour savoir quelles sont les modalités et est-ce qu'il y a des mécanismes. Et je l'ai dit juste après le tremblement de terre et je le dis aujourd'hui, il faut s'assurer que les mécanismes de bonne gestion, de transparence, il faut s'assurer que ces mécanismes sont en place, même dans l'Église. Ceci est important parce que il y a toujours trop de mauvais témoignages, pas parce que les gens sont méchants, mais tout simplement parce que parfois on donne l'argent avec naïveté et on reçoit l'argent avec naïveté. Donc de la même manière que la Bible nous fait savoir qu'il faut être de bons gestionnaires du temps de Paul, aujourd'hui encore, je pense qu'il faut qu'il y ait de la bonne gestion et de la transparence.
Merci bien, pasteur Jean-Valéry Vitalerne, pour cette intervention. Nous allons aborder la troisième partie de l'émission avant de mettre fin au programme. Mais nous allons permettre à nos auditeurs d'écouter un morceau. Et il y a quelques jours, depuis que l'un de mes enfants me demandait « Mais papa, est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances tu as écrit ce chant ?» Et puis je me rappelle exactement à quel moment, qu'est-ce que je faisais à l'époque. Et puis ce qui m'a impressionné, c'est que juste en vous rencontrant, quand je vous dis « Voilà, je me souviens de ce visage » et vous, votre réponse m'a surpris. Alors, c'était quoi exactement ?
Oui, c'est de fredonner la musique qui tournait en boucle sur Radio Lumière, que mon père également... écouter à la maison. Dès qu'on me dit Franck Doristi, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est cette musique.
Eh bien, nous allons la proposer à nos auditeurs. Son titre déjà, c'est...
Si je me rappelle bien, ça fait longtemps, hein, je crois que c'est Merci en pile, Seigneur.
Merci en pile. M'a dit merci.
Astopod.
Ou habiter nos ciel, côté qui est en pile. La maison sera fin à part aux louanges tout le temps. Pourtant, on descend bien bas, côté saillot qui affligé. Pour bail consolation, la joie, la délivrance. Côté au chita dans le ciel là, va recevoir louange dans mi-ton belle musique. Pourtant, voyager au sous nous capes et vivre sous la terre. Pour répondre, priez-nous, les nous embattra. Merci Seigneur pour l'amour gain pour nous. N'a pas dit merci Seigneur pour la vie qu'a ouvert nous. N'a pas dit merci Seigneur pour l'amour puissant sous gain et au pensé à nous. N'a pas dit merci Seigneur. Ça, on crée nous-mêmes, nous. nous pas rien. Devant la lune, soleil, étoiles, nous tambourions t'y paille. Autant on mettait sous vous, non, nous, pas nous la vie. Avec pouvoir pour nous dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour faire toute bagaille. Parole n'en bouche ou qu'on fait toute la tête trembler. Pourtant, intéressé à nous qui chargé avec faiblesse. Ou mettre force ou dans nos laines presque fines. Nous disons merci Seigneur pour l'amour qu'il pour nous. Nous disons merci Seigneur pour la victoire en nous. Nous disons merci Seigneur pour l'amour.
Vous représentez l'association des Fimichi en Haïti. En quoi consistent exactement vos actions sur le terrain?
Des Fimichi en Haïti, si je puis faire une historique assez brève, a été lancée en 2006 en Haïti avec pour objectif de premièrement sensibiliser les chrétiens autour de la responsabilité sociale de l'Église, afin que cette dernière mène des campagnes de plaidoyer sur les questions de pauvreté. Donc, notre travail se fait sur principalement deux axes, c'est-à-dire former ou attirer l'attention des leaders chrétiens sur les vérités bibliques autour des questions sociales, parce que parfois on pense que l'évangile consiste uniquement à prêcher aux gens et les envoyer au ciel, mais il est clair, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, que le chrétien a une responsabilité sociale et le chrétien également a une responsabilité auprès des pauvres, de ceux qui sont marginalisés. Donc, nous étudions les principes bibliques et théologiques autour de la mission intégrale ou la mission holistique, mais également nous formons les leaders chrétiens à savoir comment organiser une campagne de plaidoyer pour défendre les pauvres de leur communauté. Donc, c'est principalement ce que nous faisons, et pendant ces trois dernières années, nous avons voyager dans les 10 départements pour former au moins 300 leaders et également mener de petites campagnes de plaidoyer. Et personnellement, je pense que je peux être fier de la dernière campagne autour des élections présidentielles pour attirer l'attention des chrétiens sur la nécessité de voter, mais également de voter selon leur foi. Mm-hmm. Donc, voilà ce que nous faisons. Et maintenant, nous organisons, bon, nous allons organiser l'année prochaine une grande rencontre des chrétiens à travers Haïti autour, c'est le congrès national du secteur protestant autour de la reconstruction, afin que nous collections les informations sur l'impact du tremblement de terre auprès des chrétiens, des institutions évangéliques et chrétiennes, mais également de connaître la perception des chrétiens autour de cette question de reconstruction et proposer au gouvernement les réflexions des chrétiens pour dire après mûre réflexion, après discussion, voici les propositions des chrétiens, mais également pour dire au gouvernement il y a des normes à respecter en matière de reconstruction, en matière de gestion de l'aide, en matière de vision pour les prochaines années.
Mm-hmm. Et comment les églises chrétiennes, les églises haïtiennes chrétiennes répondent à vos actions, vos invitations pour soutenir cette œuvre humanitaire chrétienne qu'est le Défi Michel?
Les églises répondent positivement. Il faut dire que pendant ces 20 dernières années, les églises chrétiennes en Haïti deviennent conscientes de leur force en tant qu'institution de la société civile, mais également de la responsabilité qu'elles ont à façonner, je puis dire, l'image de la société haïtienne de manière profonde. Donc, dès qu'on parle à une église de sa responsabilité, non seulement à donner à manger aux pauvres et à construire des écoles, mais surtout à changer la mentalité spirituelle, mais également la mentalité en tant que citoyen, la majeure partie des pasteurs vous diront, nous sommes conscients de cette responsabilité. Donc, le travail du Défi Michel est accueilli avec beaucoup de joie.
La générosité, pasteur Vitalern, n'est pas seulement l'affaire des personnes riches ou des gens qui ont beaucoup de moyens. La parabole de la veuve le confirme dans les Écritures, dans la Bible. Alors, qu'en est-il de nos compatriotes en Haïti, surtout après avoir été frappés d'un tel séisme? Sont-ils toujours prêts à mettre la main à la poche, même par ces temps difficiles, ces temps de crise?
Ah oui. Mais après le tremblement de terre, au moins pendant la première semaine, lorsque l'aide humanitaire n'était pas encore arrivée sur le terrain, c'était les Haïtiens eux-mêmes qui prenaient à manger chez eux pour nourrir les autres. C'était les Haïtiens qui donnaient à boire à leurs frères et sœurs. C'était ces mêmes Haïtiens qui venaient avec marteau, burin pour sauver un frère sous les décombres. Même après le tremblement de terre, beaucoup d'églises sont en train d'être reconstruites à la fois par l'aide internationale, mais par l'aide locale et, aussi. Parce qu'il faut se rappeler que, oui, Haïti a été frappé de plein fouet par le tremblement de terre, mais les problèmes humanitaires du reste du monde restent entiers. Donc, toute l'aide internationale ne s'est pas détournée des autres pays pour aller en Haïti. Donc, il y a un grand besoin pour que les Haïtiens eux-mêmes aident. Et je peux vous dire que, à titre d'exemple, j'étais dans le nord-ouest, près de la frontière de la République dominicaine, et ce département n'a pas été frappé par le tremblement de terre, et les pasteurs me disaient, premièrement, qu'ils avaient collecté de l'argent, acheté de la nourriture pour envoyer à la capitale. En général, les gens pensent que ce sont les gens de Port-au-Prince qui ont de l'argent, mais non. Les gens de cette province ont envoyé de l'argent et de la nourriture à la capitale, et ils ont également envoyé chercher des gens de la capitale, pas de leur famille, des gens de la capitale, pour que ces derniers aillent dans le nord-ouest et reçoivent des soins physiques et mentaux. Donc l'Haïtien reste généreux dans l'âme, ça c'est sûr.
L'haïtien reste généreux dans l'âme. Nous approchons vers la fin de notre programme, Pasteur Vitalerne. Les jeunes de votre église, de votre assemblée, m'avaient invité à deux reprises pour leur proposer deux conférences sur la vie sentimentale ou la vie sexuelle des jeunes. Je ne sais pas si vous étiez là lors de ces rencontres. Comment va cette jeunesse maintenant? Ne s'est-elle pas laissée influencer par la culture libéraliste de certains pays?
Je dois dire que cette jeunesse est à la fois pétillante et perplexe. Certains peuvent dire comment une jeunesse peut être à la fois pétillante et perplexe. La jeunesse bouillonne de vie, mais également, surtout dans le contexte haïtien aujourd'hui, cette jeunesse est perplexe parce que le monde change beaucoup. Et l'influence extérieure, surtout l'influence occidentale, frappe Haïti de plein fouet, soit par la musique, soit par les films, soit par les séries télévisées. Je peux dire que l'influence est forte sur la jeunesse, mais l'Évangile tend à défier cette influence, mais la jeunesse cherche. Et pour moi, c'est ça l'espoir. J'ai eu à parler à certains jeunes il y a 3 semaines qui voulaient connaître Jésus-Christ, qui voulaient approfondir sa connaissance en Christ. Mais je pense que là où le bât blesse, c'est que malheureusement certains leaders ne parlent pas la langue de la jeunesse. C'est-à-dire que le leader parle une langue moderne, tandis que la jeunesse parle une langue post-moderne. Donc, parfois, le jeune sent qu'il est cloîtré dans un monde que le leader ne comprend pas. Mais, grâce soit rendue à Dieu, Dieu suscite d'autres leaders, et Dieu suscite également un intérêt chez les leaders beaucoup plus âgés pour qu'ils comprennent cette jeunesse et pour qu'ils s'adaptent également à la situation de cette jeunesse et pour que le message de l'Évangile, qui reste inchangé, mais pour que la manière de présenter ce message puisse toucher le cœur des jeunes.
Du point de vue linguistique, je sais que les Haïtiens aiment beaucoup les langues étrangères, mais actuellement, quelles sont les langues qui prédominent dans notre culture?
Bon, il faut dire qu'Haïti maintenant est une tour de Babel. Avec les ONG, la MINUSTA, on trouve toutes catégories de langues, mais en Haïti, comme auparavant, le créole est la langue principale qui est parlée, mais le français est compris, je pense, par une bonne partie de la population. Mais beaucoup de jeunes ont étudié aux États-Unis, et de plus en plus de jeunes également étudient en République dominicaine. Donc, le créole principalement, mais également certains parlent anglais ou comprennent l'anglais et l'espagnol aussi.
Il semble que, je ne sais pas, l'haïtien, ce n'est pas pour vanter les qualités de mon peuple, mais je me souviens quand j'étais adolescent, il y avait un coin qu'on appelait Bicentenaire, là où se réunissaient les artistes, les peintres, les vendeurs de tableaux, d'œuvres d'art. Il y a des gens qui s'exprimaient en anglais, qui n'ont jamais été à l'école. On parlait d'un anglais waf. Est-ce que ça existe encore?
Oui. Posez la question aux humanitaires. Après le tremblement de terre, avec tous ces ONG, qui traduisaient surtout pour ceux qui parlent anglais? C'était des jeunes de 17-18 ans qui savaient à peine lire et écrire. Et j'ai vécu cela, je l'ai vu moi-même, comme on le dit en français, je l'ai vu de mes yeux vus, des jeunes qui étaient tellement ingénieux, pouvaient communiquer et servaient d'interprètes aux médecins, aux gens de l'humanitaire. Donc, les gens, Les étrangers disent toujours, mais l'haïtien et la langue, il semble qu'il y a une certaine affinité. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et pas pour vanter mon peuple, mais nous sommes assez intelligents. Oui.
Et nous bénissons le Seigneur pour cette capacité qu'il nous donne, qui est parfois sous-estimée par certaines personnes. Bon, nous fermons cette page. Pasteur Jean-Élie, Jean-Valéry Vitalen, vous comprenez pourquoi je dis Jean-Élie maintenant, parce que
oui.
Pour la petite histoire, j'enregistre très souvent des émissions pour votre père à la Radio Lumière, donc il y avait un lien qui s'était tissé entre nous comme ça derrière le micro.
Bon,
oui. Vous, c'est Jean-Valéry Vitalen. Quel message prêchez-vous maintenant aux jeunes chrétiens célibataires luttant contre les passions de la chair, les tentations auxquelles ils sont constamment exposés?
Question difficile. Il faut dire que il y a deux extrêmes. Certaines personnes sont fatalistes et disent que bon, l'évangile n'a pas de puissance pour aider un jeune à rester chaste. D'autres personnes, je pense, sont angéliques et idéalistes pour dire que d'un coup de baguette, toutes les luttes cessent. Mais moi, je pense que je suis au milieu. Et je suis réaliste. Et je le dis clairement aux jeunes. Et pas seulement aux jeunes, et à tout le monde. Et parce que les jeunes pensent qu'au mariage, toutes les luttes sexuelles cessent. Et je leur dis non. Les luttes commencent à partir du mariage. Parce que le mariage ne résout pas le problème sexuel. Non. C'est la relation avec le Christ qui résout le péché sexuel. Donc, je leur dis que ce qui est important, il faut se connaître soi-même, réaliser chacun à ses points faibles, mais de s'appuyer au maximum sur le Christ. Donner sa vie complètement au Christ et renouveler son intelligence, comme l'apôtre Paul le dit en Romains 12, versets 1 et 2, et se donner complètement au Christ, comme l'apôtre Paul le dit également en Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, le message que j'adresse aux jeunes, c'est de connaître le temps dans lequel ils vivent, où les médias les bombardent de toutes sortes de messages en matière de sexualité débridée, où la société elle-même est débridée, et ce n'est pas seulement Haïti, la France ou les États-Unis, mais c'est à peu près partout. Et pour que ce jeune ne soit pas naïf, mais pour qu'il ait les yeux ouverts au monde, sur le monde, mais également, comme Billy Graham le dit, avoir un journal à la main droite et la Bible à la main gauche ou vice-versa, pour comprendre le monde et pour comprendre également le message puissant de l'Évangile, parce qu'aujourd'hui, c'est cette relation puissante avec le Seigneur qui peut garder un jeune chaste, mais pas seulement le jeune, mais toute personne. Qu'elle souffre d'addiction sexuelle ou alcoolisme ou de drogue ou de n'importe quoi ou de violence, la réponse est dans une relation personnelle et étroite avec le Christ. Je vous parle d'expérience.
Avant le mot de la fin, quels sont vos projets à court et à long terme au sein de la mission, la prophétie dont vous faites partie?
Bon, il faut vous dire que dans une semaine, les principaux leaders de l'Église vont se réunir pour réfléchir à l'avenir. Et il y a beaucoup de projets, et surtout des projets en matière d'éducation. Et également, il y a un regain dans notre Église pour, je pourrais dire, moderniser l'Église du point de vue administratif et faire de cette Église, pardonnez mon langage commercial, j'ai un background en gestion, parfois j'utilise, mais pour faire de cette Église une Église véritablement compétitive, c'est-à-dire une Église qui adresse les problèmes d'aujourd'hui avec une fraîcheur et avec la puissance de l'Évangile, avec un langage actuel, mais sans altérer le message de l'Évangile. Donc, l'éducation est primordiale pour nous. Donc, et bien sûr, la reconstruction des églises qui ont été détruites.
Mm-hmm. Et pasteur Jean-Valéry Vitalerne, quel serait votre dernier mot pour conclure?
Je pense que mon dernier mot, je peux le dire en une heure. Le dernier mot, c'est que l'Église n'a pas seulement un message qui peut transformer l'esprit et l'âme. Mais le message de l'Église peut et droit et doit influencer l'individu, la petite communauté, la ville et la société en général. Donc, certaines personnes disent, mais c'est trop difficile. Je répète toujours que je peux manger un éléphant, mais je le mange morceau par morceau. Il faut faire le petit pas chaque jour. Parfois, je me décourage, mais je me dis, c'est ce petit pas chaque jour qui, un jour, va révolutionner, bon, autant que possible, une personne, une assemblée, et on pourra dire, au moins à la prochaine génération, qu'il y avait des chrétiens engagés qui ont non seulement prêché une foi vibrante qui peut, comme le Christ l'a dit, transporter des montagnes, briser le cercle du mal intérieurement, mais également défier la corruption, défier la pauvreté, défier l'injustice dans le monde. Et comme le dit Martin Luther King, the time is now, c'est-à-dire on doit commencer aujourd'hui, pas attendre demain, mais faire son petit pas aujourd'hui.
Pasteur Jean-Valéry Vitalerne, la radio chrétienne Ebenezer International vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans ce ministère.
Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse.
Pastopod, l'émission qui vous fait découvrir la vie des pasteurs sur la RCEI, votre radio.
Quand ton cœur t'entraîne à poursuivre un but, à dévoiler les dons que tu as reçus, donne vie à ton rêve, offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel.
Et le cran de voler contre le vent, l'audace de voguer à contre-courant, chasse l'ombre de la crainte. Chagrin, marche-toi dans le chemin.
Tout est possible. Tout est possible. Celui qui croit, alors pose des exploits. Sur terre est plus précieux que l'or. Un jour s'éveille, puis il s'évapore. Ouvre tes bras à la vie, Dieu te destine à un bel avenir. Tout est possible, tout est possible. Celui qui croit.
découvrez la vie des pasteurs dans Pastopod.
Merci. Oui, merci, c'est le seul mot que je peux vous dire, chers amis à l'écoute, à l'approche des dernières minutes que nous allons passer en votre compagnie. C'était un vrai plaisir de vous compter des nôtres à l'heure de ce numéro spécial de Pastopod qui était consacré au pasteur haïtien Jean Valéry Vitalerne. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, ou même une proposition de participation à une prochaine édition, soyez libre de nous contacter par cette adresse email francradio@aol.com. francradio@aol.com. Ce me serait un grand plaisir de vous lire et surtout d'envisager votre participation à une prochaine édition de ce programme. Avant de partir, je dois remercier sincèrement le pasteur Jean-Valéry Vitalerne d'avoir accepté de participer à ce programme. C'était une proposition du pasteur Thierry Sévald que nous avons accueilli également dans la rubrique Sociopod lors de la présentation de l'association Défi Miché. Et comme vous l'avez entendu, le pasteur Vitalerne est le représentant de cette association en Haïti. Je dois remercier également tous les artistes qui ont embelli ce programme par leur chant. Commençons par l'artiste Maggie Blanchard, le révérend Henri Dorval, qui nous a envoyé plusieurs CD en vue de votre édification spirituelle. Mes remerciements vont également vers l'artiste québécoise Andréane Lafleur, Dany et Moïse Utrel, à qui nous devons notre générique, sans oublier les différentes sociétés de production chrétienne, comme par exemple Sephora Musique de la Vie, Azaf LTC, Première Partie, et toutes les autres qui acceptent de nous encourager par leur production musicale dans ce travail. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui nous avez suivis depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre intérêt pour cette radio et prie pour que le Seigneur continue d'utiliser chaque émission, chaque programme pour vous aider à mieux le connaître et surtout à réaliser combien il vous aime. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au revoir.
C'était Pastopod sur la RCEI, The Digital Gospel Journal, your station.
Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu.
L'aime dormi, si me lever, si ma vie,
sans mon panier,
l'aime sortir, si me rentrer, si moi là, sans mon panier.
Alléluia, 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 alléluia,
alléluia, alléluia.
qu'à chanter, c'est moi qu'à écrire.
C'est moi, sans vous rien.
C'est moi santé, c'est moi qu'à travailler,
c'est
moi qu'à succès. Sans vous rien.
C'est grâce à vous, Seigneur.